RCF. Bonjour amis fidèles de RCF et du Berry se raconte avec Agora Défense. Nous poursuivons aujourd'hui la passionnante histoire, cette fois-ci de Monseigneur Servenay, archevêque de Bourges, et aussi du congrès de Bourges de 1900. Avec comme invité le passionné érudit Christian Roth, professeur honoraire d'histoire et géographie au lycée Marguerite de Navarre de Bourges, membre de la Société archéologique du Berry, conférencier émérite, auteur de nombreux articles sur l'histoire du Berry. Cher Christian, bonjour et encore merci.
Bonjour.
Nous poursuivons l'histoire de Monseigneur Servenay et du célèbre congrès de Bourges de 1900. Qui est Monseigneur Servenay ?
Bonjour. Eh bien, Monseigneur Pierre-Paul Servenay est une figure de l'épiscopat concordataire qui a été nommé à Bourges en 1897 et qui est mort à son poste en 1909. Donc, pendant 12 ans, il a dirigé ce diocèse doublement départemental,
oui.
Quand même une exception, ça fait du travail à l'époque pour se déplacer. Ce prêtre, bon, n'est pas originaire de Bourges, il est natif du diocèse de Grenoble, et il va exercer ses fonctions dans quatre diocèses, et celui de Bourges pour terminer. Alors, sur les trois précédents diocèses, quelques propos quand même.
Ah oui.
Puisqu'il est né dans le diocèse de Grenoble en 1830, dans une famille nombreuse et très religieuse. Il a été au petit séminaire et au grand séminaire de son diocèse. Il est ordonné en 1864 et il tape dans l'œil de son évêque et il devient son secrétaire personnel l'année même de son ordination. Donc il n'a pas eu de ministère paroissial.
Jamais.
Il a commencé par un évêché puis il a terminé par un archevêché. Voilà. Alors cet évêque, c'est Monseigneur Ginouillac, qui est quelqu'un de très important, théologien, donc il administre le diocèse, il fait des écrits historiques par ailleurs, et je rappellerai un point, c'est que le diocèse de Grenoble est le diocèse de Notre-Dame de la Salette. Et donc Monseigneur, l'abbé Servenay,
oui,
aux côtés de Monseigneur Ginouillac, a participé à l'authentification des apparitions de Notre-Dame de la Salette. C'est important de le signaler, puisque le culte de la Vierge lui posera quelques problèmes dans l'Indre durant son ministère. Voilà. Et il va accompagner, je terminerai là-dessus, son évêque lors du Concile de Vatican en 1869-1870. Donc, il connaît un diocèse, il connaît Rome également. En 70, il s'engage, il devient aumônier dans une ambulance de Mobile, il tombe même malade. Mais alors, son évêque est promu à Lyon en 70. Eh bien, son cher évêque, l'emmène à Lyon aussi. Il l'accompagne dans son nouveau diocèse. Alors, il devient chanoine, mais après, vicaire général, chancelier, donc un poste de responsabilité. Cela durera jusqu'en 1875, où Monseigneur Ginouillac décède. Alors, son successeur, pour X raisons qu'on ne va pas développer, eh bien, ne lui confie plus d'activité. Alors, il se demande, je suis à Lyon, est-ce que je retourne à Grenoble, ou est-ce que je... Eh bien, non, il est resté à Lyon, où il avait beaucoup de contacts, et ça va être un prédicateur. Il prêche tous les dimanches à la cathédrale, et il prononce beaucoup de retraites dominicales, puis il écrit, il a quand même pas mal de choses. Parmi un de ses articles, qui est en 1879, quelques notes sur l'Église et la République. Vous voyez, l'actualité le titillait un petit peu, c'est quand même pas mal. C'était une petite brochure de 44 pages, s'il vous plaît. Donc, c'est pas une simple réflexion. C'est approfondi. Alors, il est nommé en 1889 évêque de Digne, Digne-les-Bains, dans les Hautes-Alpes.
Oui.
Alors là, il va organiser son diocèse également. Alors, il s'appuie sur son vicaire général, comme doit faire tout évêque, évidemment. Mais celui-ci s'appelle l'abbé Martel, et nous le connaissons bien, parce que lorsque il sera nommé à Bourges, il viendra avec son vicaire général, qui sera son vicaire général à Bourges aussi. Donc, on ne part pas tout seul, il vient accompagné.
Ouais.
Voilà. Alors, beaucoup de réalisations. Il fait en particulier, il édite un petit et un grand catéchisme. Il ouvre une chaire d'études sociales pour ses séminaristes, séminaires, donc il y a une notion d'ouverture. Et par contre, il n'aime pas beaucoup les catholiques intransigeants et, disons, réfractaires à l'autorité du pape en particulier. Et il a des démêlés de presse avec deux journaux de l'époque bien connus, l'Autorité et la Libre Parole. Alors, le responsable de l'autorité, c'est un certain monsieur Paul de Cassagnac. Alors, beaucoup de polémiques à rebondissement. Pour la libre parole, on connaît mieux ce rédacteur, c'est un certain Édouard Drumont.
Oh, alors, très voilà. Bien. Oui, oui, oui. Oui, d'accord.
Donc, ça brûle, c'est des sujets chauds, en général. Et on lui reproche son manque de fermeté vis-à-vis des pouvoirs judéo-maçonniques. C'est pas tout simplement.
Ah, oui.
Du pouvoir, tout simplement. Oui. Etc., etc. Mais, il s'en tire pas trop mal. Et lorsque Sadi Carnot vient en visite officielle, eh bien, à Digne, l'évêque est là, comme toutes les autres autorités, le 25 avril 1890. Parmi ses idées, il fait sienne très tôt l'encyclique de Léon XIII, au milieu des sollicitudes. Donc, comme l'a écrit Léon XIII, la République est un gouvernement aussi légitime que les autres. Donc, il est républicain de cœur, et dans la pratique, il est républicain, donc il a des relations tout à fait honorables avec le gouvernement. Mais alors, évidemment, des journalistes moins ouverts vont beaucoup le critiquer, donc encore une fois Édouard Drumont, un autre Auguste Roussel, qui parle du joug de l'épiscopat cervonais, donc comme quoi il fait peser son autorité très lourdement, etc. Donc il a quand même pas mal de démêlés, mais il a quand même les encouragements et les félicitations du secrétaire d'État du pape, Monseigneur Rampolla. Alors bon, un journaliste français c'est bien, mais Monseigneur Rampolla c'est mieux. Et il soutient, il est en faveur du développement donc de l'action sociale, on l'a déjà dit, des abbés démocrates, on parlera de l'abbé Lemire dans un instant, etc., etc. C'est un prélat local, mais qui aborde très souvent et qui polémique sur des sujets nationaux, on va dire. Alors ça ne l'empêche pas d'être fait chevalier de la Légion d'honneur et officier. Il est très prolixe. Il publie entre 89 et 97, donc 25 lettres pastorales.
C'est énorme.
Alors, moi j'ai pas compté, mais il y en a d'autres qui ont fait 737 pages.
Oh.
Et à Bourges, il fera à peu près pareil. Et lui, c'est pas deux pages. Quand il fait un petit article, c'est 15 ou 25 pages. Alors, à la mort du cardinal Boyer à Bourges, eh bien, il faut trouver un successeur. Et c'est Cervonnet qui est choisi en 1897. Alors, il arrive à Bourges. Bon, il rend les visites qu'il faut, etc. Alors, il arrive un moment où le diocèse connaît un drame. Au mois de juillet 97, une bonne partie du petit séminaire Saint-Célestin brûle. Il y a eu un incendie, etc. C'est le professeur de mathématiques qui a semé l'alarme, un certain Théodore Moreux.
Ah oui.
L'astrologue, il arrive et bon, ça se passe très très bien. Voici ce que disent certains articles de presse. C'est un prélat très libéral, réellement un prélat autonome, une docilité parfaite aux instructions de Léon XIII, un des membres les plus énergiques et les plus courageux de l'épiscopat, et je crois que c'est ça le plus important, un des protagonistes les plus militants des instructions pontificales. Il suit et même il devance Léon XIII. Et donc, quand Léon XIII mourra, avec le successeur, ça se passera un petit peu moins bien, parce qu'ils n'ont pas la même ligne. Il a la même ligne que le pape, et donc ça va très très bien. Bon, il arrive, il s'installe, et puis son épiscopat, il fait beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas vous raconter tout ce qu'il a fait, il en a tellement fait. Il a une activité soutenue, je vais vous rappeler 6 points importants. J'aurais pu en mentionner 42, parce que, comme tout ecclésiastique à la tête d'un diocèse, il consacre des églises, il bénit des cloches, il fait des tournées pastorales, des tournées de confirmation, etc. En particulier, il préside les obsèques, le 5 novembre 1907, de 8 victimes d'une explosion au polygone de Bourges, en présence du ministre de la guerre, le général Picard. Donc, il fait partie des autorités. Il a donné l'absoute. C'était à la chapelle de l'hôpital militaire. Il avait proposé pour la cérémonie la cathédrale, mais l'autorité n'a pas accepté parce que fallait pas que ce soit trop grandiose, si vous voulez. Mais il essayait d'arrondir certains angles. Alors, premier point, et je passe très rapidement, il soutient, il développe les établissements d'enseignement libre. Je vais pas les énumérer, il y en a 36 000. Il y a son petit séminaire Saint-Célestin qu'il fait reconstruire. À Châteauroux, il fait ouvrir un collège. le collège Léon XIII.
Léon XIII,
évidemment. Ben, c'est des noms qui nous sont familiers. Il a grandi Sainte-Marie, oui, à Bourges, des choses très concrètes. Et il envoie beaucoup de ses jeunes séminaristes à l'Institut catholique de Paris, qui lui en sera très gré. C'est un des évêques protecteurs de l'Institut catholique de Paris.
Belle action.
Ah ben oui, non mais ça c'est du concret et du tangible. Au moment de la séparation, eh bien il créa une école de supérieure de théologie, 21 rue Nicolas Leblanc. Où nous sommes.
Hein,
donc le berceau de ces bâtiments, c'est Monseigneur Servonnet.
D'accord, très bien.
Alors, deuxième sujet, défense de la bonne presse. Alors, la bonne presse, c'est la presse catholique, évidemment. Il dit même nettement catholique, hein, c'est plus que catholique. Et donc, vous savez qu'on a plusieurs journaux qui sont d'obédience catholique. Le Petit Berrichon, qui s'appelle aussi la Croix du Berry. Il a eu une édition spéciale dans l'Ain, mais elle qui n'a pas duré, peu importe. Il s'occupe évidemment de la semaine religieuse, très importante la semaine religieuse. Il encourage la multiplication des bulletins paroissiaux en particulier. Donc la communication, c'est la communication. Oui. Il porte une attention bienveillante aux lieux de pèlerinage et de dévotion. Alors évidemment, je pourrais parler de Déol, de Châteauneuf-sur-Cher, de Sainte-Solange.
Oui, oui.
Il agit partout. Il inaugure une statue de Notre-Dame de Lorette à Sancoin en 1902. Oui, bon, il n'oublie pas son diocèse d'origine. Il a des relations qui ont évolué. Parmi les soutiens qu'il apporte, il soutient bien sûr l'abbaye de Fontgombault. Mais il y a un clash. En octobre 99, il devait y avoir la bénédiction de tous les bâtiments restaurés. Et puis, la veille de la cérémonie, ça a été interdit. Il est monté à Paris. Il a été au ministère, il a été voir le nonce, donc ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas été très bon pour lui, parce qu'évidemment, la congrégation de Fontgombault à l'époque, c'était les Trappistes, et les Trappistes étaient une congrégation non autorisée.
D'accord.
Donc, c'est pas l'enseignement, mais bon, c'est la même problématique.
Sûr, oui.
Voilà. Et donc, sa démarche a été vaine, et il en est resté extrêmement amer. Et dernier point là-dessus, il doit veiller, bien sûr, au développement de Notre-Dame de la Miséricorde de Pellevoisin.
Oui.
Entre 97 et 1903, ça se passe pas trop mal. Il va plusieurs fois à Pellevoisin, bon, etc. Mais à Pellevoisin, il y a beaucoup de monde qui s'agite. Il y a un curé très énergique, l'armée Salmon, qui est plutôt, on va dire, traditionnaliste, il est même royaliste, à l'époque ça existe encore, il le fait remplacer par quelqu'un de plus ouvert. Il y a une chapelle dite miraculeuse, alors y a-t-il eu des miracles ? Officiellement, on ne le sait pas, puisqu'il y a eu différentes procédures, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle, comme quoi il y a eu des miracles, etc. Et donc en 1905, pour des raisons simplement, pour moi, d'ordre et de sécurité, eh bien, il interdit la chapelle, il interdit certaines manifestations, et donc la presse titre « Un pèlerinage fermé par un archevêque ». Alors évidemment, c'est quand même assez retentissant. Et on a parlé qu'on n'a pas besoin d'un second Lourdes en France, hein, et que Pellevoisin, c'était un Lourdes manqué. Donc là, ça marche pas très très bien, parce que, je termine là-dessus, il y a trop de personnes qui s'agitent autour de Pellevoisin, qui est très fréquenté. Donc c'est une source de revenus, entre autres. Donc il y a le clergé diocésain, il y a un monastère de Dominicaines, le grand propriétaire de la commune, qui est la famille de La Rochefoucauld, et il y a des prêtres de Lyon, de Blois et de Paris qui animent et qui coordonnent les pèlerinages. Alors ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas du tout dans la main du diocèse. Et ça, c'est ça qui chagrine. C'est comme ça. Et son successeur, Monseigneur Dubois, rétablira les choses d'une façon plus égale.
Christian, merci encore pour ces explications sur Monseigneur Servonnet. Un récit passionnant et, comme je l'ai dit, une personne intéressante, très en avance sur son époque, je dirais même contemporaine, ouvert vers ce monde qui se transforme profondément. Merci encore à vous, Christian, et bonne semaine, chers auditeurs, auditrices, sur RCF.